Angel of Death.
De Julien Between and the Angels, alors projet en trio que Soigny Elzingre mène à la baguette sur l'autoroute du rythme. Elle est la batteuse du groupe et prête sa voix. Elle est aussi l'invitée de cette émission et j'en suis très heureux. Il y a un groove profond dans ce groupe. Ce serait quoi ta définition du groove?
C'est une définition assez complexe. J'ai un peu réfléchi justement dans mon bouquin parce que ça fait partie vraiment des gros mots, quoi, des grands mots de la musique, le groove. Et c'est un peu mystérieux quand même. Il y a des définitions, des définitions un peu obscures également, il faut que ça nous fait bouger la tête, c'est quelque chose qui nous fait danser, tout ça. Alors oui, certes, ça nous fait danser. Mais pour moi, le groove, c'est quelque chose de très particulier et de très individuel. Parce que vraiment, on a tous pas du tout la même relation. Y a quelqu'un qui va dire bah tiens ça je trouve ça groove, et puis la personne d'à côté va dire bah non, pas moi. Et y a des choses sur lesquelles on s'accorde à dire que certaines choses groove, tout ça, que certaines musiques groove, etc. Ok. Mais moi je trouve que c'est super mystérieux en fait, comment ça se joue dans l'écart entre des notes, pourquoi. Quand on enregistre de la batterie, en plus, ça fait vraiment ça. Moi, j'aime bien enregistrer de A à Z un morceau. Donc, on va dire, allez, c'est 4 minutes. T'enregistres 4 minutes de ton morceau. Sur ces 4 minutes, il va y avoir des fois, parfois, 8 mesures, 4 mesures, 2 mesures, où tu te dis, putain, ah là, il se passe un truc, genre d'un coup, dans ton corps, il y a un mouvement qui se passe, tu bouges ta tête, tu ressens quelque chose, et puis après, pouf, tu le perds. Et il y a des gens qui arrivent à le faire tenir 4 minutes. Pour moi, c'est un peu ça l'objectif d'une vie quand t'es batteur. C'est d'arriver à tenir un groove, d'arriver à tenir un rythme qui te procure une sensation le plus longtemps possible. En fait, c'est un peu ça l'idée. Je crois que c'est ça, en fait. Le groove, ça doit être lié à une sensation, à un sentiment de bien-être, à quelque chose qui te fait oublier un petit peu, qui d'un coup ton cerveau il switch, quoi. Il y a quelque chose qui se passe et c'est très très dur à trouver et très très dur à tenir. Tu peux le trouver une mesure, deux mesures, mais vraiment l'avoir 4 minutes, on n'est pas des machines. Et justement cette histoire de machine avec aussi la manière dont on enregistre aujourd'hui, l'IA et tout ça, c'est des questions qui se posent. Comment on fait? Est-ce que la machine elle peut faire groover? Et il y a des machines et il y a des morceaux qui sont enregistrés avec des machines et qui groovent.
J'ouvre les guillemets, l'instinct et le choix subjectif sont les seuls garants de la valeur d'une œuvre. C'est une citation de Yanis Xenakis qu'on retrouve dans ton livre. Quelle part d'instinct, toi, tu laisses dans ta manière de jouer?
Ouais, cette phrase de Yanis Xenakis, elle m'a beaucoup plu parce que pour moi, c'est ça. Il y a un truc de l'instinct. Ça fait peut-être. En fait, je crois que l'instinct, c'est un mélange de plein de choses. C'est un mélange de ta personnalité, de ta culture, de tes angoisses aussi, de tes questionnements c'est des réponses à des choses qui se passent. Et quand tu es en studio avec des gens, c'est un peu ça l'instinct, c'est genre j'entends quelque chose, je réagis, comment je réagis, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais répondre à cette ligne de guitare, à cette ligne de piano, qu'est-ce que ça m'inspire, et tout ça c'est sur le moment. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi pas trop répéter, et j'aime bien aller en studio sans avoir trop une idée de ce qu'on va jouer, parce que j'ai l'impression que c'est finalement une réponse assez honnête et assez un peu vraie. Je sais pas, il y a une espèce de vérité de l'instant qui est belle et qui est intéressante. Et j'ai l'impression souvent aussi en studio, que je parle beaucoup de studio parce que j'en fais aussi pas mal en ce moment, et j'ai l'impression que plus on le joue, plus on va intellectualiser ce qu'on est en train de faire, plus on va réfléchir et plus on va perdre justement cette fraîcheur un petit peu instinctive qu'on avait au début. Alors pour moi ça marche, il y a des gens pour qui ça marche pas, ils vont avoir besoin de répéter justement pour se libérer et pour s'exprimer. Moi, j'ai l'impression toujours que c'est la première prise qui est la meilleure, quoi. Il y a un truc de... Il y a un truc de... Je réfléchis pas et je fais ce que la musique m'inspire sur le moment. Voilà, pour moi ça marche comme ça. Après c'est vraiment très très personnel aussi.
Toi t'as écrit le livre Batteuse, sous-titré Pop Culture, Jazz, Musique Électronique, Éloge d'un Instrument Rock'n'Roll. Comment t'as abordé l'écriture de ce livre?
C'était d'abord quelque chose pour moi, pour mes réflexions, pour tenter de répondre à mes questions, à mes questionnements. Pendant le Covid, hein, évidemment, on s'est tous arrêtés, on a fait des trucs bizarres, on a réfléchi un peu, attends, pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que... Et surtout, la musique, j'avais fait 5 ans de tournée, de 2015 en gros à 2020, et là on s'est arrêté et on a cru un peu tout ce qu'on n'allait pas pouvoir repartir. Et je me suis posée en me disant, qu'est-ce que c'est que cette chose bizarre que j'ai fait pendant 5 ans? C'est quoi faire de la musique? Ça veut dire quoi en fait aujourd'hui, en 2020? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Faire de la batterie, c'est un instrument un peu bizarre, pourquoi je fais ça? Et donc je me suis posé plein de questions parce que je suis très sceptique dans la vie. Avec Junior, on a ce concept du petit sceptique qu'on aime beaucoup et c'est vraiment... tout remettre en question tout le temps, se poser plein de questions, dire mais pourquoi on fait ça? Attends, mais ça n'a pas de sens d'aller à l'autre bout du monde pour faire de la musique, c'est très bizarre quoi. Et je me suis posée vraiment, puisqu'on avait que ça à faire aussi, je jouais à la console et je réfléchissais au sens de la vie. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, allez, vas-y, pose-toi un peu, écris, puis écrire, c'est quelque chose que j'aime bien faire depuis très longtemps, mais que je me suis pas donné le temps de le faire. Et là, j'avais le temps, donc je l'ai fait. Et j'ai commencé à interroger des copains un peu batteurs aussi, des amis, voir un peu ce que c'était leur rapport à la batterie, leur rapport à la musique. Et j'ai commencé à écrire des choses, je pensais vraiment pas que ça aurait la forme d'un livre, au final. Mais 5 ans plus tard, ça a fait ce livre et je trouve ça toujours un peu bizarre. Je me repose aussi des questions, je suis très sceptique.
Qu'est-ce qui t'a apporté ce livre en tant que praticienne?
Ce livre m'a permis vraiment de prendre un peu de recul et de savoir aussi ce que j'avais envie de faire, quelle musique j'avais envie de faire, avec qui j'avais envie de jouer et de rencontrer des gens un peu... qui sont pas du tout dans ce milieu-là et qui m'ont fait quand même avancer sur ma pratique, comme Jean-Philippe Usan, qui est un astrophysicien, qui est quand même musicien et qui a une réflexion sur le temps qui est très intéressante et avec qui j'ai eu la chance d'échanger. Et Patrick Frémaux aussi, avec qui l'éditeur qui aussi donc édite des livres, mais aussi des CD, et aussi des livres sur des réflexions écologiques, sur aujourd'hui ce qu'on fait en tant qu'être humain sur la planète. Et ça m'a permis de remettre ma pratique instrumentale et mon métier au cœur d'un espace plus large. Et je trouve que vraiment ça, c'est hyper important aujourd'hui de faire ça, de se dire qu'on est des citoyens d'un espace, d'une ville, d'un pays, d'un monde. Et vraiment, c'est quelque chose qui est, je pense, central aujourd'hui, et on est obligé de se replacer dans un espace plus large. On ne peut plus juste faire notre petite life en se disant ça suffit. Enfin, je trouve que c'est hyper important de se poser des questions de pourquoi on fait ça et qu'est-ce que ça a comme impact sur la planète, sur l'espace dans lequel je suis. Et Patrick Frémaux a vraiment cette réflexion très large avec tous les livres qu'il édite. Et je trouve ça passionnant. Je trouve que c'est vraiment des questions qu'il faut se poser aujourd'hui.
Ton livre est hébergé chez Frémaux Associés. Hein. Tu parlais de Patrick Frémaux tout à l'heure, une enseigne qui a fait de la sauvegarde du patrimoine, une de ses spécialités. C'est un choix qui s'est fait comment, ça, de travailler avec eux?
Ça a été un peu le hasard. Parce qu'il se trouve que je connais bien Stéphanie Hackett, donc qui est une femme incroyable qui fait énormément de choses. Je ne peux pas la résumer à juste elle fait ci ou elle fait ça. Elle fait mille milliards de choses. Et j'ai fait une story sur Instagram avec un livre de Frémaux. Parce que je fais des stories de livres. Ça a un énorme intérêt, ça. Et Stéphanie répond à ma story et elle me dit « Mais tu sais que Patrick Frémaux, c'est mon meilleur ami ?» Et je dis à Stéphanie, je dis « Bah, tu sais que je suis en train d'écrire un bouquin ?» Et en fait, je vais chercher un éditeur. Je sais pas si ça peut intéresser quelqu'un ce que j'écris. Et elle me dit, bah vas-y, je te donne le mail de Patrick Frémaux et puis tu lui envoies. Et il se trouve que c'était un moment où donc c'était assez avancé quand même mon livre. Et donc j'avais deux projets de livres parce que j'en ai un deuxième qui est en route. Et comme un enfant, quoi, c'est vraiment, ouais, oui, j'en ai un petit deuxième, il est tout jeune, il vient de naître. Et donc j'envoie ce mail à Patrick Frémaux avec mes deux propositions de livres et il me répond tout de suite en me disant que ça l'intéresse. Donc voilà, c'était quand même complètement le hasard et il se trouve qu'il venait de sortir un livre sur la naissance de la batterie par Guillaume Nouaud, qui est extraordinaire aussi, super intéressant. Et en fait, bah, il me dit, voilà, moi j'écris j'édite des bouquins de gens qui sont très pointus sur le jazz et souvent un peu âgés. Et il m'a fait rire et me dit, en gros, ça me fait plaisir d'avoir une femme qui parle de musique et qui est jeune. Donc comme je suis quand même à la moitié de ma vie, mais on ne dira pas vraiment mon âge parce que je veux laisser une légende se faire. Et il m'a dit, ça fait plaisir d'avoir une jeune femme qui parle de batterie. Donc je tombais pile poil à un moment pour eux où c'était bien aussi, quoi.
Alors on poursuit en musique avec un autre de tes projets qui lui s'appelle Patin d'amour et dans lequel tu officies à la guitare et au chant cette fois-ci. Tu as choisi le morceau Drôle de rêve. Qu'est-ce que tu aimerais nous en dire ?
Alors Patin d'amour, c'est un projet que j'ai monté il y a peut-être 2 ans. Enfin, là, ça n'existe plus aujourd'hui sous cette forme. Mais c'est la première fois pour moi que j'écrivais des morceaux, que j'écrivais aussi des paroles. Et je suis assez fière en fait quand même de ces morceaux. J'ai très envie aujourd'hui de refaire un petit peu de musique, de réécrire des choses. Donc je pense que je vais le faire parce qu'à un moment, en fait, il faut faire. Quand on a envie de faire un truc, il faut le faire. Si ça nous fait du bien, ça nous fait plaisir. Et voilà, et en fait, c'est de la musique donc, que je faisais avec Olivier Viadero, qui est aussi batteur. Et on a vraiment composé, écrit cette musique ensemble. On a tout fait de A à Z. Et j'ai beaucoup aimé cet exercice d'écrire des paroles. Moi, je fais la basse aussi, et d'écrire des lignes de basse. Enfin, vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et ouais, je trouve que écrire, en fait, c'est aussi quelque chose que j'ai envie de faire de plus en plus aujourd'hui. Je fais des interviews pour Batterie Magazine depuis janvier. Et c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Et surtout écrire en français, voilà, je trouve que c'est un super exercice. J'ai vraiment envie de faire ça. Je pense que je vais faire ça. J'espère qu'à 80 ans, je continuerai de faire de la musique un peu chelou, avec des paroles cheloues et pour le plaisir, quoi. Ouais, je pense que c'est un truc de long terme.
drôle de rêve du groupe Patin d'Amour pour cette émission en compagnie de Soigny Elzingre. C'est un drôle de rêve de devenir musicienne professionnelle. J'entends pas rêve, j'avais aucune chance d'y arriver et j'ai réussi à le faire.
Oui. Oui, oui, clairement, c'est un drôle de rêve. Je pensais pas du tout que je pourrais faire ça. Mais en fait, je pensais même pas que ce métier existait vraiment. Tu sais, quand t'as 20 piges et que tu vois, je dirais pas en quelle année on est, mais tu vois des clips à la télé, tu vas voir des concerts au Zénith, tu vas voir des trucs un peu fat. Toi, tu vois Avril Lavigne et les Smashing Pumpkins, oui. Et tu te dis pas en fait que c'est un métier que toi tu peux exercer. Tu dis c'est loin. Et puis t'as l'impression que c'est pour d'autres gens qui sont forcément des stars, tu vois. Et un jour j'ai compris en fait qu'il y a aussi des groupes qui existent et qui vivent de leur musique sans être, sans passer sur TF1, sans être super connu, que c'est une économie qui existe. Qui est évidemment très précaire et qui l'est de plus en plus. Hein, on va pas se cacher. Enfin, c'est quand même assez difficile comme métier, mais comme beaucoup, comme plein d'autres métiers. Et j'y connaissais rien sur l'intermittence. Tout ça, c'est un système extraordinaire qui permet quand même vraiment de vivre, de s'en sortir, d'avoir un salaire. Et je pense que j'ai découvert avec le temps que ce métier de accompagnateur, accompagnatrice, sideman, sidewoman, comme on dit un peu plus tôt en anglais, c'est un métier qui existe et qui est tout à fait accessible, même à des gens qui n'ont pas de diplôme, parce que c'est pareil, on a l'impression qu'il faut avoir absolument des diplômes de conservatoire, qu'il faut avoir passé des examens, machin. Mais non, en fait, c'est pas parce qu'on a... Ça veut rien dire, c'est vraiment là pour le coup. Mais c'est pareil, en fait, aujourd'hui, on peut avoir un boulot sans avoir le bac. Ben, c'est la même chose, on peut être musicien, musicienne, sans avoir un diplôme de conservatoire. Et ça, je pensais pas que c'était possible, et du coup, ça l'est. Donc c'est plutôt chouette.
Ça complète ton jeu de te mettre au chemin à la guitare, et plus généralement de t'installer à un autre poste que celui de batteuse.
Oui, oui, oui. Et je pense que c'est hyper important de pratiquer plusieurs instruments. Surtout quand t'es batteur-batteuse, parce qu'il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas d'accord. Enfin, tu peux faire une note à la batterie, mais je pense que c'est important aussi d'avoir un peu. D'avoir un autre point de vue. Et effectivement, d'être de l'autre côté de la batterie aussi, pour se rendre compte un peu de ce que c'est que de jouer avec un batteur, de ce que t'attends d'un batteur, d'une batteuse, c'est important. Alors après, je dis ça aussi, c'est pareil, c'est important pour moi, mais c'est pas une obligation. Mais la basse, par exemple, enfin vraiment, c'est, je trouve que c'est vraiment l'instrument qui complète le mieux la batterie. Et parce que c'est rythmique, mais c'est aussi mélodique. Et le chant, parce que franchement, quand t'es derrière une batterie, t'es un peu planqué au fond de la scène, derrière tes cymbales et tout. Et quand tu te retrouves devant, avec les gens qui te scrutent, et que t'es là comme ça, à rien avoir dans les mains, et à avoir juste un micro devant toi, ben mine de rien, pareil, ça change un peu ton rapport à la musique et à la scène. Et je pense que c'est important de un jour se retrouver à cette place quand t'es musicien, parce que vraiment tu te dis ah en fait ça fait ça. Ah d'accord, attends, je vais retourner derrière finalement, parce que c'est beaucoup plus. C'est mieux hein, d'être derrière, au moins je suis un peu planqué, les gens ils me voient pas. Et ouais, c'est très complémentaire. Il faut pratiquer un peu tous les instruments, je pense que c'est important de changer de place.
Alors la pause musicale à venir est l'œuvre de Fiona Apple. Quelle place elle tient pour toi, l'américaine ?
Fiona Apple, c'est j'écoutais beaucoup quand j'étais plus jeune. Je sais qu'elle a une histoire personnelle un peu complexe, mais finalement c'est pas sur ça que je me suis arrêtée. Fast as You Can, c'est vraiment un morceau que j'ai poncé, mais je l'ai écouté beaucoup. Je sais pas, il y a un truc d'urgence. Mais je pense que c'est lié à son histoire, évidemment, mais un truc d'urgence et d'intelligence profonde dans son expression artistique et dans ses interviews. Elle est incroyable. Elle est vraiment... Elle en a rien à foutre. Elle est d'une intelligence extraordinaire, d'une finesse. Fiona Apple, c'est un personnage et elle a disparu un peu des radars. Je ne sais pas si elle fait toujours de la musique aujourd'hui. Mais la batterie sur ce morceau, elle est incroyable, les percus et tout. Et j'aime bien, ouais, je crois qu'il y a un truc un peu volcanique, un peu d'urgence, un peu de folie que j'ai du mal à retrouver aujourd'hui dans la musique. J'ai l'impression que tout est un peu lissé, qu'il faut... Il y a évidemment des groupes un peu... qu'on retrouve ça, mais cette espèce de folie, mais pas la folie au sens hystérie et tout ça, qu'on a souvent, mis ça comme adjectif pour les femmes. Donc c'est pas du tout cette folie-là. Pour moi, c'est une folie créatrice. Et un peu, quelque part, de genre, je m'en fous, je m'en tape de ce que les gens pensent, je m'en tape de... Juste, je fais de la musique comme je l'entends, et je dis ce que je pense en interview, et aller un peu vous faire foutre. Et ça, je trouve que ça se perd un tout petit peu, et c'est, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens dans sa musique. Ça se trouve, c'est pas du tout ça. Et ouais, j'adore Fiona Apple, c'est vraiment un personnage extraordinaire.
Alors on écoute Fast As You Can.
I am. You say you don't smoke easy, you won't go.
Fiona Apple avec le titre Fast As You Can. Alors les stéréotypes de genre ont la vie dure, hein, je profite de Fiona Apple qui est une figure féminine de la scène pop. Ça bouleverse la représentation, une nana derrière les fûts, une fonction dans la musique largement dominée par le genre masculin.
Oui, je pense que ça bouleverse encore, même si clairement aujourd'hui il y a de plus en plus de femmes qui sont derrière les fûts qu'on voit, mais c'est aussi grâce aux réseaux sociaux, hein, mine de rien, parce que ça permet quand même une grande visibilité aujourd'hui. Mais je pense que tout bouleverse à partir du moment où les femmes prennent une voix ou prennent une place qu'elles n'ont pas l'habitude de prendre. On le voit aujourd'hui très fort avec certaines accusations de certaines personnes. On voit que ça bouleverse, on voit que quand les femmes elles prennent un peu la parole, quand elles sont à des places vraiment où elles ne devraient pas être, voilà, ça n'a aucun sens, ça bouscule. Et les gens sont là, bon, attends, pourquoi ? Mais pourquoi une femme ? Ah oui, vous êtes sûr ? Vous êtes sûr de ça ? Oui, oui, on est sûr en fait, on est complètement sûr, et je pense qu'il faut bousculer. Il faut, en fait. Juste, il faut prendre cette place, il faut être là. Et à un moment, ce sera juste normal, et ça l'est de plus en plus, quand même, ça c'est cool. On fait de moins en moins de réflexion. Ah, c'est d'une nana à la batterie, on le fait de moins en moins la réflexion, mais parce qu'on en voit aussi de plus en plus. Et j'ai fait une interview d'une batteuse qui s'appelle Martina Barakowska, et elle a dit en anglais « More there is, more there will be ». Donc c'est vraiment ça, c'est plus il y a de femmes présentes, plus il y en aura, et c'est tout, point barre en fait, on passe à autre chose quoi.
Bot Song de Gary Jules, c'est le cinquième morceau que tu as choisi pour nous ce soir. Qu'est-ce que tu aimerais nous en dire ?
Gary Jules, c'est vraiment un album, pareil, je crois que c'est un des albums que j'ai le plus écouté dans ma vie et que j'emmènerai sur une île déserte. Je ne vais pas prononcer le nom